Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 23 août 1989 à Saint-Jeudard.
Nous allons continuer à réfléchir au niveau de la théologie mystique sur ces sept affirmations de Jésus. Il y en a d'autres dans Saint Jean. Je les prends celles-là parce que c'est de fait à travers les grands combats. Et Jésus dit aussi « Je suis la voie, la vérité et la vie ». On pourrait l'ajouter. J'aime mieux prendre là, dans une réflexion de théologie mystique sur l'évangile de Saint Jean, il y a de fait de la multiplication des pains à Béthanie, au repas de Béthanie. Il y a très nettement une période de grande lutte, de lutte interne et de lutte externe. Je suis le pain de vie, le pain véritable. Alors je vous disais, n'oublions pas qu'au plan philosophie première, métaphysique, je dois, et je crois très important aujourd'hui, si on veut montrer toute la richesse de la philosophie première de l'être, arriver à cela. Évidemment, là, je suis tout à fait d'accord que c'est un problème qui, chez Aristote, ne s'est pas du tout posé de la même façon. Mais nous faisons de la philosophie aujourd'hui. Et donc, après tout un apport très particulier sur le point de vue de la philosophie de la personne. Saint Thomas a toute une théologie de la personne, très poussée, et très grande, et très belle. Et puis depuis Saint Thomas, il y a certains philosophes, Max Scheler, qui ont beaucoup réfléchi sur la personne. Les psychologues ont beaucoup réfléchi. Et je crois que nous devons, au point de vue philosophie réaliste, aboutir à comprendre le « je suis ». Vous avez dû y réfléchir toute la journée, donc ce soir, vous êtes tout à fait capable de comprendre la force du « je suis ». Quand vous dites « je suis », tout ce qui existe en vous est présent. Le corps, toute l'âme intérieure, toutes les sensations, tout ça c'est je suis. Et surtout, il y a ce fait, et ça je crois que c'est très important pour nous, de comprendre que nous avons là une saisie de ce qui est à la fois objective et intérieure. Très étonnant de voir ça, comment l'être est au-dessus de la distinction objet-sujet. On pourrait le dire tout de suite, mais c'est en étudiant la personne qu'on le voit le mieux. Et en comparant le jugement d'existence, ceci est, et ce jugement, je suis, qu'on comprend ça tout de suite. Quand vous dites que le jugement d'existence, c'est l'objectivité toute pure, quand vous dites « je suis », il y a toute une intériorité. Présente à l'être. Je ne peux pas séparer ça. Alors c'est un grand avantage, vous voyez, de montrer comment une philosophie de l'être, une métaphysique de l'être, implique nécessairement, en dernier lieu, de penser le « je suis », la personne humaine. Quand Jésus dit « Je suis le pain véritable », nous devons tout de suite nous poser la question. Est-ce que c'est une affirmation qui regarde la personne, puisque c'est « Je suis », le Verbe, le corps du Christ? C'est sûr, puisque Jésus ne peut dire « Je suis le pain véritable » que du fait qu'il se donne à nous dans l'Eucharistie. Si tu restes dans le même lieu, chapitre 6, relisez ce chapitre 6. J'avais hésité avec vous de le lire, mais vous ne pourrez pas le revoir les autres aspects. Parce que c'est un des passages les plus étonnants où Jésus annonce prophétiquement l'Eucharistie. Alors, quand Jésus dit « Je suis le pain véritable », est-ce que c'est en référence avec l'Eucharistie ou est-ce que l'Eucharistie est en référence avec ça? Vous voyez ce que je veux dire? Je fais le petit schème pour que vous compreniez. Est-ce ceci en conformité avec l'Eucharistie? Ou est-ce au contraire la compréhension théologique de l'Eucharistie? Aucun exégète n'a réglé la question. À quoi ça m'intéresse beaucoup, point de vue théologique? C'est dans le même lieu, chapitre 6, hein? Chapitre 6 en Saint Jean, la fin, le grand discours auprès de la synagogue de Capharnaüm. Grand discours du Christ, très émouvant du reste. Les deux fois où j'étais là-bas, j'ai pu dire la messe avec des complicités du bon franciscain, qui est un archéologue remarquable et qui a de mauvaise humeur. Alors il faut savoir le prendre et le coincer. Et alors à ce moment-là, on peut dire la messe. Non, ce qui n'est pas permis du tout, ça fait rien. Je trouve ça tellement beau de dire la messe au lieu où Jésus a dit ça. Évidemment, on doit le faire dans des heures où plus personne n'existe sauf le groupe qu'on a. Alors, je suis, c'est la personne, ça on ne peut pas nier. Le pain de vie et l'Eucharistie, puisque c'est dans le même chapitre. Alors, Jésus annonce, or il affirme, je suis le pain de vie, il affirme en premier lieu, d'une façon très absolue, sans aucune référence à l'Eucharistie. C'était qu'après qu'il donne l'Eucharistie, de façon prophétique. Donc, si je lis le discours même, je vois que c'est à la suite qu'il dira. Et la révolte a été consumée, a été ultime quand Jésus a annoncé que sa chair était vraiment une nourriture. Quand il a dit « Je suis le pain de vie », c'est l'étonnement, c'est l'agitation, c'est les murmures. On commence à se dire « Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est vrai, parce que là, vous voyez, quand Chouraki dit, ce que Chouraki, vous savez bien, a traduit en hébreu Saint Jean, il a fait un petit commentaire, il me l'a envoyé pour me demander si j'étais d'accord. Je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas être d'accord avec vous, c'est impossible, c'est pas la peine de me demander ça, ça m'a intéressé, mais je ne suis pas d'accord. Parce qu'il dit ouvertement, le Nouveau Testament n'apporte rien à l'Ancien. Difficile. Alors, je suis le pain de vie. Est-ce que je... Jésus est Dieu ou est-ce que Jésus n'est pas Dieu? C'est toute la question. Si Jésus est un prophète, je suis le pain de vie, c'est un langage purement métaphorique. Est-ce que vous pouvez dire je suis le pain de vie? Métaphoriquement. Je suis votre bon pain. Je me laisse manger par vous. J'ai tout le temps à votre disposition. Vous pouvez venir quand vous voulez. Donc je suis un bon pain pour vous. C'est métaphorique. Petit déjeuner le matin, c'est pas métaphorique, comprenez le pain. Mais voir quelqu'un qui dit je suis mangé par vous, c'est métaphorique. C'est rare que vous avez en face de vous un anthropologue qui a envie de vous manger. Ça peut arriver, vous voyez. Ça m'est arrivé. Et j'ai eu très peur. Normalement, c'est plutôt métaphorique. Alors, oui, c'est intéressant parce que mais c'est toute la question de savoir si l'affirmation « je suis le pain de vie » c'est une affirmation métaphorique ou propre. Poserai la question, vous sécheriez, comme moi je sèche. Et je me pose la question. Est-ce métaphorique ? Jésus dit, je suis le pain de vie, le pain de Dieu. Il est le pain de Dieu. Ah, c'est très curieux. Frère, relevez, dans ce chapitre 6, je n'ai pas le temps de le faire avec vous, mais faites-le. Chaque fois est affirmé le pain, 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 pain. Et demandez-vous si c'est une affirmation métaphorique ou une affirmation propre. Pas commun du tout. Alors, je crois qu'on peut dire ceci. J'essaie, hein, parce que c'est important, c'est très important. C'est une des grandes affirmations du Christ. Je suis le pain de vie. Pour moi, personnellement, hein, je dis que c'est ceci qui est vrai. L'Eucharistie m'aide à comprendre que Jésus est le pain de vie. Il est le véritable pain. Il est le pain de Dieu. C'est beaucoup plus fort. L'Eucharistie, c'est une pédagogie divine. La pédagogie qui conduit à mieux comprendre ce qu'est Jésus pour nous. C'est la pédagogie royale, l'Eucharistie. La pédagogie. On devrait y penser du reste aujourd'hui, dans la catéchèse. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par là? Parce que ce qui est très extraordinaire, c'est que les enfants ont un sens étonnant de l'Eucharistie. Étonnant. Mais Pénis, qui nous a dit quand même, on se devrait se demander, parce qu'on doit toujours se poser aujourd'hui toutes les grandes questions de la catéchèse. Alors il y a ceux qui sont sur le terrain, qui doivent y réfléchir, puis ceux qui ont le privilège d'être un tout petit peu plus loin, je me demande si vraiment on ne devrait pas commencer par là. C'est l'Eucharistie est une pédagogie admirable pour les enfants. Extraordinaire. Bon, je ne vais pas faire le traité de l'Eucharistie ici. C'est merveilleux de voir que Jésus dit, ceci est mon corps. Je mets ça en parallèle, hein, puisque je crois que ce chapitre 6 ne peut se comprendre parfaitement. Il est prophétique à l'égard du chapitre 13. Là, c'est Jésus qui enseigne et qui enseigne de façon prophétique. Et le chapitre 13, Jésus réalise. Tandis que le chapitre 6, il ne dit pas du tout comment. Ma chair est vraiment une nourriture. Mais comment? Mon sang est vraiment une boisson. Mais comment? C'est au chapitre 13 qu'on le voit. Quand il prend du pain, il dit ceci et mon corps. Ah, ceci est mon corps. Il dit pas ceci est mon pain. Pas du tout. Alors voyez, je suis le pain de vie, l'Eucharistie, ceci est mon corps. C'est pas l'Eucharistie. Jésus, en réalisant l'Eucharistie, dit ceci est mon corps. Et ceci, le ceci, c'est les apparences du pain. C'est pas le pain, parce qu'au moment où Jésus convertit le pain dans son corps, ce n'est plus du pain. Et le ceci regarde les apparences. Et la réalité, c'est le corps du Christ. Ceci est mon corps. Et donc, ce n'est pas, quand il dit « Je suis le pain de vie », ce n'est pas l'Eucharistie qui est en cause. Non. Ceci est mon corps. Et donc, ça renvoie au corps du Christ. Et le Christ dit que son corps est un pain de vie. C'est le corps du Christ. Le corps du Christ. Donc la personne à qui on attribue le corps. J'espère que vous voyez mon raisonnement. Je ne peux pas rapporter « Je suis le pain de vie » à l'Eucharistie, puisque Jésus, quand il institue l'Eucharistie, dit « Ceci est mon corps ». Dis pas ceci est mon pain. C'est plus le pain. C'est le corps du Christ. Donc, c'est bien l'Eucharistie en référence au pain. Et le petit lien, les apparences du pain. Et l'Eucharistie est fait pour que je découvre Jésus comme pain. On oublie souvent ça, parce qu'on ne nous a pas beaucoup enseigné ça. Alors que je crois ça très grand. Je ne peux plus vivre du mystère de l'Eucharistie sans comprendre ça. Je suis, c'est Jésus qui est le pain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, c'est un langage symbolique. C'est un langage métaphorique. Mais d'un symbolisme et d'une métaphore divine. C'est-à-dire qu'il est le véritable pain. Qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain, pour Jésus et pour tous ceux à qui Jésus parle, c'est l'aliment par excellence. C'est l'aliment par excellence, c'est le pain dont on se nourrit. Or, l'aliment par excellence, qu'est-ce que c'est que l'aliment? L'aliment est tourné, il est pour le vivant. Il est pour le vivant. Il est serviteur, substantiel. Je vous ai déjà dit. Serviteur, l'habit est serviteur de l'homme. L'instrument est serviteur de l'homme. Le serviteur est serviteur. Et l'aliment est un serviteur substantiel, on le mange. Et donc, quand Jésus dit qu'il est le pain, langage métaphorique mais divin, symbolique, pour nous faire comprendre qu'il est celui qui se donne comme le pain. Il se donne avec tout l'absolu du pain. C'est-à-dire sans rien garder pour lui. C'est ça la grande affirmation « Je suis le pain véritable ». Je suis pour vous votre véritable pain, votre aliment par excellence. Je ne garde rien pour moi et tout est à vous. sous cette parole de saint Augustin, ne crois pas que quand tu communies, c'est toi qui transformes le corps du Christ en ton corps, en l'assimilant. Mais c'est le Christ qui te transforme en lui et qui assimile tout ce que tu es en lui. Je suis le pain vivant. Ça me semble ça très fort. Et à ce moment-là, vous retrouvez dans l'Eucharistie l'apparence du pain pour que nous comprenions cette grande affirmation. Le sacrement étant un signe, symbole et un instrument qui réalise ce qui est signifié par le signe. Et donc, l'Eucharistie, c'est bien la pédagogie divine pour que nous comprenions cette grande affirmation du Christ, je suis le pain. Et l'Eucharistie me permet de vivre Jésus comme pain véritable. C'est-à-dire Jésus qui se donne à moi substantiellement tout ce qu'il est, son âme, sa divinité. Il m'est totalement donné, mystiquement. Alors je comprends cette affirmation très forte de saint Thomas. L'Eucharistie, il faut bien distinguer le signe et la réalité, c'est le corps du Christ présent sous les apparences du pain, et la réalité totale, absolue, le corps mystique. Le corps mystique, c'est que le Christ est la tête et nous sommes les membres. Donc il y a une unité substantielle entre le Christ et nous. Mais tout prend sa signification à ce moment-là, de façon très forte. Et quand Jésus dit « Je suis le pain véritable », Jésus montre qu'il est là, présent pour son peuple, d'une manière toute nouvelle. Grâce à lui, Dieu est présent pour son peuple d'une manière toute nouvelle. Et c'est vrai. Par l'Eucharistie, Jésus est présent à nous d'une manière toute nouvelle. C'est très important parce que ça fait comprendre, voyez, pourquoi l'Église, dans sa manière de comprendre l'Eucharistie, va progressivement insister sur la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Pour que nous comprenions la présence mystique de Jésus comme pain. Ça devient la pédagogie de la présence. L'Eucharistie est la pédagogie de la présence. D'une présence tout intérieure de Jésus comme tête présent à ses membres. L'Eucharistie nous fait vivre Jésus présent comme tête, corps mystique, à ses membres. Et nous vivons de cette présence. Oui, comme pédagogie divine. C'est dans ce sens-là que l'Eucharistie est la grande pédagogie de l'oraison et de la contemplation. La prière intérieure de l'oraison, c'est de vivre de la présence du Christ. La contemplation, c'est de vivre de la présence du Christ, d'une présence intérieure, d'une présence aimante de Jésus qui se donne à nous. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on se donne. Jésus se donne entièrement comme pain de vie. Si Jésus se donne substantiellement, il est substantiellement présent. Mais il y a là quelque chose de très grand, et qui, me semble, n'a pas été suffisamment développé. Théologie de la présence. Et comme compréhension du mystère de l'Eucharistie. Ce chapitre 6, le grand enseignement du Christ me fait entrer d'une manière contemplative dans le mystère de l'Eucharistie. Autrement, je risque toujours de rester à la pratique des sacrements. Et c'est terrible. Les sacrements, ce n'est pas une pratique. Les sacrements sont les sacrements de la nouvelle loi. Les sacrements nous conduisent à la contemplation et à l'unité de vie avec le Christ. Et c'est cette unité de vie avec le Christ que je dois chercher. Oui, la pratique du sacrement, il faut communier le plus qu'on peut. Oui, ces choses qui se disent comme ça, il faut communier au moins une fois l'an. Les exigences de la pratique, on n'insiste plus que là-dessus. Et les sacrements, c'est comme ça qu'on les voit. Alors ça risque de reprendre un point de vue moral. La pratique, c'est un point de vue moral. Tu dois aller communier. Alors qu'il faudrait comprendre que ce sacrement d'amour, c'est un sacrement qui nous attire. Je vois ça chez les convertis. C'est très beau. Dès que j'ai découvert l'Eucharistie, pour moi, ça devient une nécessité de vie. Je ne peux plus passer une journée sans communier. Ils ne disent pas c'est une pratique, c'est une attraction. Ils sont attirés par l'Eucharistie. Parce qu'ils sont attirés par cette présence de Jésus. Oui, c'est pour ça que c'est important de reprendre tout le mystère de l'Eucharistie dans la perspective du chapitre 6. Et là, nous sommes en face d'une perspective mystique du sacrement de l'Eucharistie. C'est Jésus lui-même qui nous enseigne comment regarder l'Eucharistie. C'est très vrai que saint Thomas, dans sa somme, ne donne pas du tout ça. J'en suis parfaitement conscient. Il ne dit absolument pas ça. Mais il n'est pas opposé à ça. Pas du tout. Au contraire. La théologie scientifique de saint Thomas est ouverte à la théologie mystique. Donc, comprenons bien, symbolisme divin. Je pousse un tout petit peu plus, parce que c'est tellement important, cette première affirmation. Le pain de Dieu, le pain du Père. Jésus est le pain véritable, il est notre pain, et nous pouvons l'affirmer par l'Eucharistie. Il est le pain de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est là où je crois que nous pouvons mettre en parallèle et s'il est le pain de Dieu, il est donc en référence avec le Père, avec Dieu. C'est Jésus non plus tourné vers nous, mais Jésus tourné vers le Père. Il y a toujours les deux aspects. Hein. L'amour du Père et l'amour pour nous. Et vous avez toujours ce double aspect dans le mystère de Jésus. Et dans chaque présence du Christ, il faut toujours regarder les deux aspects. Pour aller jusqu'au bout du regard contemplatif. Le regard contemplatif demande d'entrer dans le mystère du Père par Jésus. Dans le mystère de la très sainte Trinité. Notre contemplation s'achève dans le mystère de la très sainte Trinité. Eh bien, vous avez, quand il s'agit de la deuxième personne de la très sainte Trinité, vous avez le Verbe, vous avez le Fils, et j'ajoute le pain. Ce sont les trois fruits. Le fruit de l'esprit, le fruit de la chair, la naissance selon la chair, et le fruit de l'activité artistique. C'est quand même curieux. Il n'y en a pas d'autres, cherchez bien. le fruit de l'esprit, de l'intelligence, de la contemplation, si vous voulez. Le verbe, c'est le secret. Quand on contemple une personne, on la porte en nous. C'est notre secret. Le verbe, c'est le secret. C'est le secret du Père. Il est le Fils du Père, il est le pain du Père. Or, quand je regarde la grande théologie de saint Thomas sur le mystère de la très sainte Trinité, je vois que saint Thomas laisse tomber, c'est pas un oubli, laisse tomber volontairement le pain. Il n'y a pas une troisième question, procession du Verbe, c'est le Fils, c'est le pain. Non, c'est pas curieux du tout. Parce que justement, quand il dit « je suis le pain », c'est une affirmation symbolique. Le pain est pris là d'une façon symbolique. C'est pas étonnant, c'est le fruit de l'activité artistique. Tandis que le Fils et le Verbe, ce sont des analogies propres. Et c'est pour ça qu'elles peuvent être utiles. D'une théologie scientifique. Comme les thomistes ont été très paresseux, ils ont répété saint Thomas sans revenir à l'écriture, en se demandant qu'est-ce que saint Thomas a laissé tomber, délibérément. Dans une théologie mystique, je dois réintégrer le mystère du pain pour essayer de comprendre comment le Fils totalement donné au Père. Il est l'aliment du Père. Il est le fruit secret. Il est le Fils. Il est le pain. Il est le Fils. Nous lisons grâce à l'incarnation. Il est le pain. Nous lisons grâce à la croix. C'est à la croix que je dis que Jésus est pain. Et le pain du Père. Parce qu'à la croix, il glorifie le Père. Il glorifie le Père en devenant le pain du Père. Parce qu'il est dans un état victimal. Les grains sont broyés. Et le vin. Alors, je ne peux pas développer, hein. Je dis simplement ça pour y réfléchir. Parce que je trouve ça très beau et très grand. Ça donne une nouvelle dimension qu'ordinairement on n'a pas du tout. Et c'est pourtant ça. Jésus est vraiment le pain du Père. Pourquoi ? Nous disons, dans la très sainte Trinité, que du Père procède le Fils. Et du Père et du Fils procède l'Esprit Saint. Il faut donc que le Père et le Fils soient un. Et pour que le Père et le Fils soient un, il faut que le Fils soit le pain du Père. Et alors à ce moment-là, les deux sont un pour l'aspiration de l'Esprit Saint. Alors, c'est merveilleux de voir que le pain du Père nous est donné. Et c'est ce qui est dit dans l'Écriture à propos de l'Apocalypse. Nous sommes invités à la table du Père. Et donc nous avons le même pain que le Père. Et ce pain, c'est Jésus. C'est Jésus dans son état victimal. Puisque l'agneau et le pain se tiennent. Alors, dernière petite réflexion sur ce mystère du pain. Jésus est le pain. Vous avez ces trois aspects. Serviteur, agneau et pain. Il y a un crescendo selon Isaïe. Jésus est le serviteur de Yahvé. L'agneau, Jean-Baptiste. Et le pain, c'est Jésus lui-même. Tout agneau est serviteur. Tout serviteur n'est pas agneau. Vous savez bien. Les trois qualités du serviteur, hein, selon l'Écriture, le serviteur, il est fidèle, il est doux, il est pauvre. Trois grandes qualités du serviteur. C'est pour ça que c'est si rare. Il est fidèle, il accomplit pleinement ce qu'on lui demande. Il est doux, il obéit. Et il est pauvre parce qu'il ne fait pas son œuvre. Il fait l'œuvre de celui dont il est serviteur. Et Jésus est serviteur grâce à son humanité. Par son humanité, il est serviteur du Père. Il est parfaitement serviteur. Mais ce serviteur a ceci de tout à fait particulier, c'est qu'il donne sa vie. Il est l'agneau immolé. Selon égorgé, selon la grande vision d'Apocalypse. Et il est peint. Il est parfaitement donné comme nourriture. Ça, je crois que c'est très important pour bien comprendre le crescendo et comment le mystère du pain est vraiment l'ultime vision sur Jésus. Vision Joanne. Seconde affirmation. Je suis la lumière du monde. C'est plus facile à comprendre. C'est très beau aussi. Jésus ne dit pas « Je suis la lumière ». Dans le prologue, c'est le Verbe qui est la lumière véritable. Et Jésus ne dit pas « Je suis la lumière véritable ». Il dit « Je suis la lumière du monde ». Le monde, qu'est-ce que c'est que le monde? Peut-être beaucoup de choses. Et encore une fois, Jésus dit ça au chapitre 8. Chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, je suis la lumière de la vie, je suis la lumière du monde. Jésus dit cela, donc, après ce passage. Là encore, je sais que certains exégètes aujourd'hui mettent ce chapitre 8 entre parenthèses, du moins le début, entre parenthèses, en disant qu'il est mal situé. Mais très bien, c'est l'opinion d'exégète. J'ai le droit de garder l'écriture telle qu'elle m'est donnée par l'Église. Mais je m'en sers. Et je vois que de fait, cette affirmation vient immédiatement après la miséricorde auprès de la femme adultère. Et alors Jésus là affirme. Et on voit très bien que cette affirmation n'est pas très appréciée. Les pharisiens lui dirent donc, « Toi, c'est à ton propre sujet que tu témoignes. Ton témoignage n'est pas vrai. » Ils ont très bien compris que cette affirmation de Jésus était une affirmation qui dépassait toute celle des prophètes. Je suis la lumière du monde. La loi est dite lumière, véritable. Le Verbe est dit le Dieu. Dieu est dit lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors là encore, faites le petit parallélisme très simple. Du moins, cette petite analyse très simple. Je suis, c'est la personne. Lumière du monde, c'est Jésus dans son humanité. Parce que dans son humanité, il est la vérité pour nous. Donc c'est bien la personne du Verbe incarné. Et c'est curieux, vous voyez, c'est assez curieux, parce que si on est attentif à ça, on voit que je suis le pain. Donc ceci est parfaitement vrai grâce au mystère de la rédemption. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », c'est le mystère de l'incarnation. Dès l'incarnation, il est la lumière du monde. Évidemment, avec le mystère de la résurrection, il l'est encore plus. Avec le mystère de la rédemption, il l'est encore plus. Mais l'incarnation suffit à Jésus pour dire « Je suis la lumière du monde ». Puis, la dernière affirmation, « Je suis ». C'est le Verbe. En premier lieu. Il faut bien comprendre ça, parce que c'est beau de voir ces trois affirmations successives. Trois présences distinctes du Christ pour nous. Présence du pain pour montrer l'unité. Et l'unité substantielle. Il est le pain véritable. Il est l'aliment. Il se donne à nous. C'est le don le plus absolu où il est serviteur de chacun d'entre nous. Il est la lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La lumière, c'est celui qui, de l'intérieur, éclaire. C'est celui qui est modèle et qui nous indique la route. Il suffit de suivre. Tu es ma lumière. Quelqu'un qui marche devant, vous savez bien, quand vous marchez dans les ténèbres et que vous êtes très myope, vous ne voyez rien du tout. Quelqu'un a des yeux de chat, il passe devant. Puis vous lui mettez la main sur l'épaule et vous passez. Tu es ma lumière. À ce moment-là, on va dire, tu es ma lumière. Quand vous avez une panne, vous êtes une panne à l'égard de vos phares, vous êtes en pleine nuit, hein, ça peut arriver. Il y a heureusement une voiture qui passe devant. Et vous essayez par tous les moyens de la suivre de très près. Il est votre lumière. Celui qui est devant et qui est modèle, qui indique la route, il est lumière. C'est ça la lumière. Et la lumière intérieure, c'est celui qui nous donne cette limpidité intérieure. La lumière du monde. C'est la lumière à l'égard de tout notre psychisme. C'est le Christ qui est notre lumière. On ne peut pas s'arrêter aux études psychologiques et philosophiques. Si on est chrétien, on ne s'arrête qu'au Christ. Et c'est le Christ qui est notre lumière. Comme c'est important, ça. Vous voyez, on choisit, on fait le choix des vocations aujourd'hui au niveau psychologique. Mais non, c'est dans la lumière du Christ et de lui seul qu'on se sert du psychologue. Et du philosophe, très bien. Et du théologien, très bien. Mais le mystère de la vocation est un mystère tellement d'intérieur. Où il y a un choix. Et c'est le Christ seul qui permet ça. Et pour des chrétiens, le choix d'une épouse ou le choix d'un époux se fait dans la lumière du Christ. Et pas uniquement parce que on s'entend bien. Je t'aime bien. Dès que je t'ai vu, je me suis dit oui. on arrivera à s'entendre. Non ? Le mariage implique un sacrement. La lumière du monde. La lumière du foyer. La lumière de notre vie. Ça va très loin, ça. Et voyez, Jésus dit ça après avoir montré la manière dont il répondait aux pharisiens qui lui amenaient la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils étaient très fiers, ces pharisiens. On va la voir. Psychologiquement, c'est très bien construit. Très très bien construit. Jésus va être coincé. Pour une fois, on va la voir. Bien, c'est à ce moment-là où Jésus, après avoir répondu, « Je suis la lumière du monde », il nous montre qu'il a une autre lumière qui lui permet de déterminer, de préciser. C'est pas la loi. C'est pas son action, non. C'est pas son image de marque. Jésus ne s'est pas occupé de son image de marque. Les pharisiens, oui. Ce qu'on fait en réalité, c'est ça. Est-ce que tu es fidèle à ton image de marque? Ou est-ce que tu seras fidèle à la loi? Si tu es fidèle à ton image de marque, tu vas aller contre la loi. Et explicitement, tu t'es mis dans une fausse piste. Et si tu poursuis cette piste, voilà, on demande que tu es en dehors de la loi. Alors, es-tu fidèle à ton image de marque? Es-tu sincère avec toi-même? C'est la sincérité, l'image de marque. Sincérité pour nous et sincérité pour les autres. Ou bien, est-ce que tu prends la loi? Eh bien, Jésus prend, montre autre chose. Il est la lumière du monde. Et donc, s'il est la lumière du monde, il se détermine d'après la lumière de la vie, d'après la lumière qu'il reçoit directement de Dieu. C'est comme ça que Jésus nous conduit. Et quand nous voulons nous conduire selon notre psychologie ou selon notre philosophie, mais nous ne sommes pas au niveau chrétien. Les païens font de même. On doit être au niveau de la grande affirmation « Je suis la lumière de vie ». On ne méprise pas la psychologie. On ne méprise pas la philosophie. Mais elle est à sa place. Et en nous, on a une tête de plus. La tête du Christ. Et c'est la tête du Christ qui nous permet d'avoir cette lumière et cette détermination. C'est très fort. Surtout quand je regarde cette affirmation du chapitre 8, juste après l'épisode de la femme adultère. Pour moi, c'est le signe que c'est bien là que ça doit être. Parce que c'est éclatant. Jésus exprime ce qu'il a fait. Je suis la lumière de vie. Je suis la lumière du monde. Le monde, dans toute sa complexité, le monde du péché, le monde conduit par le démon, c'est Jésus qui nous permet de comprendre la laïcisation du monde d'aujourd'hui, la pollution de toutes les erreurs qui sont dans le climat dans lequel on est. Je suis la lumière de vie. Et Jésus nous donne cette lumière. Et ensuite, dans le grand chapitre 9, la grande lutte. Jésus dit par trois fois, je suis. Par trois fois. Alors là, c'est Jésus qui montre qu'il est Dieu. Et le montre avec force. Alors il faudrait, pour bien comprendre cette affirmation, relire le texte. C'est facile. Faites-le. Et si vous avez des questions, vous les poserez. C'est un tellement beau texte. Quiconque commet le péché, est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas dans la maison à jamais. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. C'est un très beau passage sur la liberté intérieure. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer parce que ma parole à moi n'a point d'accès en vous. Ce que moi j'ai vu auprès de mon père, je le dis. Et vous donc, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de votre père, vous le faites. Ils répondirent et lui dirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais non, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites, vous, les œuvres de votre père. Et lui dit, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous n'avons qu'un père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que j'arrive. Car ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui-là m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage à moi? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole à moi. Vous avez, vous, le diable pour père. Mais la force de ce discernement de Jésus, la lumière du monde, ce qui vient de Dieu, ce qui vient du démon, ce qui vient d'Abraham, ce qui vient du démon. La tradition ne suffit pas. Il y en a beaucoup qui se disent à la tradition et qui se mettent dans l'erreur. La tradition ne suffit pas. C'est l'enseignement actuel de l'Esprit Saint qui seul nous éclaire et qui nous donne la lumière. Alors c'est là où Jésus l'affirme. Avant qu'Abraham fût, je suis. La grande affirmation de Jésus qui est pour son peuple et pour le monde entier. Dieu au milieu de nous. C'est la présence de Dieu, je suis. Qui est dit à Moïse et qui est redite ici aux apôtres. À tous ceux qui l'entendent.